À part Raymond, non, parce que vraiment c'était un issue déjà clos. Mais ce que je dirais, c'est qu'au Zimbabwe, on a vu un changement de président, mais pas de régime. Tous les généraux, les directeurs de sécurité, les anciens combattants qui sont là depuis la lutte pour l'indépendance, ils sont encore. Et d'ailleurs, ont même participé à des scènes de violence pour réprimer l'opposition à plusieurs reprises. Donc, il reste à voir si vraiment il y aura un grand changement au Zimbabwe, à mon avis.
Alors, professeur Thomas Chaussin, de tous les événements qui ont marqué l'actualité zimbabwéenne ces derniers temps, lequel, selon vous, a précipité la chute de Robert Mugabe? M'entendez-vous?
Oui, je vous entends, madame.
Lequel, selon vous, a précipité dans les événements récents la chute de Robert Mugabe?
Non, nous avons un peu de problème de ligne. Si vous pourriez répéter.
De tous les éléments récents, lequel, selon vous, a précipité la chute de Robert Mugabe?
Je pense que c'est vraiment une évolution qui devient depuis plusieurs ans. Les élections de 2008 qui étaient terriblement manipulées, d'ailleurs avec la main de fer du nouveau président Mnangagwa dans l'arrière-plan, dès ces élections-là qui ont bouleversé l'inclusion populaire et la procédure de la démocratie au Zimbabwe, il y a eu presque une naissance d'un mouvement de renaissance africaine ou de printemps africain. Et voilà, c'était la moindre... le moindre éclat qui a provoqué cette situation, cet événement, et le moindre éclat, c'était la favorisation de la femme de M. Mugabe, d'ailleurs une sud-africaine, moitié de son âge, comme successeur, qui était inacceptable pour le reste du pays.
Justement vous reprendre la parole et me pencher vers vous, Scott Bob. Beaucoup mettent en cause justement sa femme, Grace, impopulaire et prise de pouvoir. A-t-elle contribué et comment à cette déchéance rapide de son mari?
Eh bien, comme vous l'avez dit, Grace Mugabe n'était pas bien aimée par la population. La deuxième femme, la première femme, il était très bien aimé, Sally, et ses crises de colère, ses prises de bec n'engendraient pas beaucoup de soutien. Alors, mais ce qui est plus important, c'est que l'écartement de M. Mnangagwa, avant lui Joyce Njuru, tous les anciens combattants, et puis la tentative de limoger le général Chikwenga, a contribué à que vraiment le pouvoir militaire de sécurité ne pouvait pas accepter que ça continue.
Alors Robert Mugabe a dirigé le Zimbabwe depuis l'indépendance du pays. Un des leaders des forces indépendantistes, il a été vénéré à un certain moment, puis sévèrement critiqué pour de multiples raisons. On remonte sur son parcours avec sa loi Jafaris.
Le parcours politique de Robert Mugabe, celui qui était jusqu'à sa démission le plus vieux président en exercice dans le monde, commence dans les années 60. Mugabe crée l'African National Union, la ZANU. Il est arrêté avec d'autres leaders nationalistes et passera 10 années en prison. En 1980, après les accords de Lancaster House, les Britanniques accordent l'indépendance à la Rhodésie du Sud et l'ancienne colonie autonome devient le Zimbabwe. En tant que chef de la principale faction de la guérilla lancée en 1972 contre le pouvoir blanc, le camarade Bob est accueilli en libérateur et devient premier ministre du nouvel État. En 10 ans, le pays fait un bond sur le plan économique et se développe à un rythme soutenu. Mais Mugabe n'a jamais été un dirigeant pacifiste et pris d'idéaux démocratiques. En 1982, il envoie ainsi l'armée dans la province dissidente du Matabeleland, terre d'Ndebele, et de son ancien allié et rival pendant la guerre, Joshua Nkomo. La répression fait environ 20 000 morts. La crise des années 2000, sur fond d'accusations de corruption, fait basculer le Zimbabwe, autrefois grenier de la région, qui devient une nation appauvrie. L'inflation bat des records. La monnaie locale voit sa valeur chuter de manière vertigineuse au point d'être retirée de la circulation. Et puis, sa santé se dégrade, mais il balaie d'un revers de main les rumeurs qui le disent atteint d'un cancer. Après son divorce, il épouse en 1996 sa secrétaire Grace. Celle que l'on surnomme Gucci Grace se retrouve notamment à la tête de la Ligue des femmes de la ZANU-PF et organise autour d'elle une faction, la Génération 40. Son ascension au pouvoir et le limogeage de son rival, le vice-président Mnangagwa, constituent le début de la fin pour celui qui a fait serment de rester un siècle au pouvoir.
Nous sommes toujours en direct. Entre temps, nous avons M. Zamba qui est arrivé, activiste et également analyste politique, et M. Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État à la direction africaine. Alors bonsoir, merci d'être avec nous en direct. Bonsoir. On a des avis divergents concernant Robert Mugabe. Certains l'ont beaucoup apprécié pour certaines de ses prises de position et de sa main de fer face à l'Occident, et d'autres également ont des choses très positives le concernant, même des punchlines humoristiques. Est-ce que vous pensez que son image peut rester aussi positive?
Je pense que l'image restera très positive, notamment par rapport à la lutte pour l'indépendance de la Rhodésie, mais pas seulement de la Rhodésie. Vous avez également, il a beaucoup milité par rapport au conflit de RDC, de la région de la SADC ou de tout autre pays en Afrique ou même à l'extérieur du monde qui a besoin en fait de libérer son peuple. Et je pense que de ce côté-là, l'image restera positive. Je pense que les Africains et la plupart du monde sont quand même un peu tolérants sur la façon dont il va peut-être on se souviendra de lui par rapport à ce qui vient de se passer. Mais je pense que dans la majorité des choses, ce sera une image très positive.
Très positive cette image. Est-ce que vous êtes du même avis, Scott Bob?
Monsieur Mugabe a choisi de sortir par la grande porte au lieu de s'unir à une humiliation parlementaire. Après un certain temps, il sera toujours vénéré à son âge, la lutte. N'oublions pas que le Zimbabwe a un taux d'alphabétisation de 90%. C'était un atout dont il est très responsable comme ancien enseignant. Donc, si les nouveaux dirigeants parviennent à restructurer l'économie surtout et peut-être introduire un peu d'ouverture politique, je crois que ce sera en total positif.
Quel avenir pour, selon vous, M. Cohen, pour M. Mugabe?
Je crois qu'il sera en toute sécurité, il va garder toutes ses positions, personne ne va chercher à le mettre sous jugement. Je crois qu'il sera toujours vénéré comme le premier président fondateur de Zimbabwe.
Professeur Thomas Chaussin, vous êtes du même avis?
En principe, oui, ça ne conviendra pas à M. Mnangagwa et son équipe d'en faire de Bob Mugabe un malin. Il sera respecté. L'histoire va surtout expliquer que c'était la santé, que c'était l'âge qui a obligé M. Mugabe à se démissionner. On va essayer de faire oublier qu'en effet, M. Mugabe est l'homme d'une révolution échouée, d'une révolution qui a en effet détruit le pays et qui n'a rien achevé. Mais ça ne conviendra à personne de prendre cette perspective.
Robert Mugabe, la fin d'une époque, on s'achemine donc vers une transition qui suscite à la fois espoir et incertitude. Nous en parlerons dans quelques instants après une courte pause.
Vous et nous, c'est votre émission.
Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous.
Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis.
Tout ce qui nous passionne et donc nous rapproche.
Racontez-nous vos histoires.
Et nous vous raconterons les vôtres.
Vie africaine.
Vie américaine.
Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun.
Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie.
Vous et nous.
Vous et nous, ensemble.
De retour dans ce Washington Forum, quel avenir pour le Zimbabwe avec la démission de Robert Mugabe, la présidence par intérim de son ancien vice-président Emmerson Mnangagwa. L'Afrique tout entière se pose la question. Nos reporters ont recueilli des réactions dans les rues de Bamako, au Mali.
Je ne vois pas un avenir au Zimbabwe sans Robert Mugabe. Parce que Robert Mugabe, c'est un socle. C'est un socle du Zimbabwe. C'est grâce à lui que Zimbabwe a été bien construit.
Je peux dire que le départ de Mugabe est positif. Parce que s'il part, s'il part et puis il cède le trône à une autre personne, celui-là peut changer le pays, quoi. Il peut amener un changement.
L'avenir du Zimbabwe, pour moi, il est sombre. Il est sombre dans la mesure où les Occidentaux essaient toujours de nous téléguider, de nous commanditer leur philosophie, leur politique.
Donc le départ de Mugabe n'est pas positif pour moi. Parce que pourquoi je dis cela? Mugabe devrait démissionner bien avant qu'il y ait un soulèvement. Il devrait prendre l'exemple sur Nelson Mandela.
Je vois un avenir positif parce que le vieux, il a trop duré au pouvoir, 93 ans. Mais c'est la gérontocratie ou quoi? Nous voulons que la jeunesse soit active dans ce pays.
Nous avons reçu énormément de réactions sur la page Facebook de VOA Afrique. Je vous propose d'en découvrir quelques-unes d'entre elles. Tidjanba au Cameroun, je salue cette sage décision qu'a prise Robert Mugabe, car vaut mieux tard que jamais. Je salue l'armée zimbabwéenne qui prouve encore une fois que dans les pays anglophones, la démocratie pacifique existe. Fiston Firé du côté du Burundi, Mugabe reste toujours un vrai leader africain, même s'il a échoué sur le plan économique, il est au même rang que Kadhafi. Il restera gravé dans les mémoires des Africains car il a lutté contre l'impérialisme occidental. Dommage qu'il termine sa carrière politique ainsi. Roger Tsonga au Congo, nous souhaitons qu'il soit traduit en justice pour ces années de malheur infligées à son peuple. Bravo à l'armée zimbabwéenne et au peuple qui a réussi à le chasser sans heurts ni morts. Cette action exemplaire devrait avoir des répercussions au Congo-Brazzaville, en RDC, au Tchad, au Cameroun et au Gabon. Nous avons toujours en direct de Johannesburg André Thomas Chausson, professeur de l'Institut de droit international et comparé à l'UNISA. À Austin, au Texas, nous sommes en ligne avec Scott Bob, journaliste et analyste politique. En studio à Washington, Jean-Claude Zamba, activiste et analyste politique. Et à ses côtés, Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État américain chargé de l'Afrique. Monsieur Thomas Chausson, il y a peu d'élections libres au Zimbabwe. Croyez-vous à la renaissance d'une démocratie pour le pays ? Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah, pardon,
est-ce que vous pensez que la démocratie est possible? On entre dans une ère démocratique.
Bien sûr, les Zimbabwéens ont démontré plusieurs fois qu'ils sont capables d'élire un président. Malheureusement, souvent ça a été bafouillé. En 2008, par exemple, M. Tsvangirai avait gagné le premier tour des élections présidentielles selon beaucoup de sources, mais les généraux et leurs supporters ont engendré une violence qui était tellement cruelle que M. Tsvangirai s'est vu obligé de se retirer avant le deuxième tour, ce qui a pu faire élire M. Mugabe. Mais les Zimbabwéens, pendant les élections, c'était assez correct même. Et d'après certaines sources, M. Mugabe avait initialement accepté ce résultat. Donc, à mon avis, il suffit que le régime, le pouvoir, soit d'accord pour permettre cette ouverture.
Alors, M. Zamba, quels sont les grands défis que doit relever ce pays, surtout au plan socio-économique?
Je pense que la première chose que le Zimbabwe a comme défi, c'est d'apporter une certaine coalition au niveau des différents partis, la société civile, les différents organismes, vraiment apporter cette paix qui est recherchée par tant de Zimbabwéens. Le deuxième côté, ce sera sur le plan économique. Le Zimbabwe a été pendant longtemps un panier agricole de la sous-région de la SADC. Il faudrait qu'il reprenne cette place. Sur le plan fiscal, il y a des défis à relever, macroéconomique également. Aujourd'hui, il est un peu très difficile de retirer de l'argent au niveau des banques. C'est un souci que beaucoup de Zimbabwéens ont. On se rappelle encore, il y a quelques années, l'inflation galopante que subissait ce pays, 35 milliards de dollars qui équivalaient à 35 cents américains, c'était tout un problème. Aujourd'hui, la société est en train de se tourner vers une société sans cash, donc cashless society, qui est un avancé assez considérable pour le pays. Je pense que, par exemple, au niveau de l'Afrique du Sud, vous avez à peu près 3 millions de Zimbabwéens qui y vivent. C'est une diaspora importante qui a quelque chose à faire dans le développement de ce pays. Le Zimbabwe a été pendant longtemps l'un des avant-gardes d'éducation au niveau de l'Afrique, 80% comme le disait le docteur tout à l'heure. Encore là, une opportunité grande. La région dans laquelle il se trouve, la SADC, est une des régions où il y a des réformes économiques, macroéconomiques et fiscales qui sont en train de se faire. La bourse du Zimbabwe est une plaque tournante. L'économie zimbabwéenne est, comme on dit souvent, basée sur l'agriculture, mais également des services. Et vous avez la Chine, qui s'est pendant que tout le monde avait tourné le dos au Zimbabwe, qui était devenu l'un des premiers partenaires financiers au niveau des investissements du pays.
On va y revenir, c'est même après 2004 précisément. Monsieur Cohen, que peut-on dire de son successeur? On l'appelle le crocodile. Qui est-il?
Mais écoutez, c'était un partenaire de Mugabe dès le début. Il faisait partie de ce système corrompu. Donc, il doit écouter ce que les gens disent dans la rue. Ils sont très contents que Mugabe a démissionné. Mais maintenant, ils ont dit autre chose. Ils ont dit que c'est nécessaire pour le parti au pouvoir de partir aussi. Le ZANU-PF, un parti qui était un État dans un État. Et ce sera très difficile de déloger ces gens-là, parce qu'il y a des carrières et tout ça. Donc, pour montrer qu'il est de bonne foi, M. Mnangagwa doit appeler l'opposition à se joindre à lui pour faire un gouvernement d'unité nationale et pour faire les réformes que mon collègue vient de parler.
Professeur Thomas Chaussen, est-ce que selon vous, ce successeur est suffisant et va permettre un intérim fiable?
Monsieur Mnangagwa est certainement un pilier du ZANU-PF, un des architectes les plus importants de l'indépendance du Zimbabwe, formé en Chine et en Égypte. Il a vécu un peu partout en Afrique, il a une expérience énorme dans la gestion des conflits politiques. C'est un homme très sérieux et encore plus important, il est un fils de la nation des Karanga, qui font 35% de la population du Zimbabwe. En tant que Mugabe était un Zezero, une nation minoritaire qui avait fait, dès son commencement, dès les années 1980, il a fait tout pour minimiser l'influence des Karanga. Je pense que vraiment Emmerson Mnangagwa va avoir la capacité, la discipline intellectuelle et les relations internationales, l'appui de l'Angola, l'appui de la Chine, pour ouvrir la porte pour que le Zimbabwe puisse prendre son chemin dans l'avenir. C'est une transformation nécessaire partout dans la région du SADC, d'abandonner les vieilles politiques de légitimité historique, légitimité qui nous revient de la guerre de la libération, et de faire des pays modernes. L'Angola a commencé, le Zimbabwe est le second pays sur ce chemin.
Comment peut s'organiser ce nouveau gouvernement? Êtes-vous optimiste pour cette organisation?
Monsieur Mnangagwa a déjà indiqué qu'il cherchera d'inclure un gouvernement d'unité nationale, d'inclure de nouveau Monsieur Tsvangirai et surtout le ministre des Finances Biti, qui a eu déjà une fois un succès remarquable. Il cherchera certainement l'appui des nations occidentales et du nord de la hémisphère nord, alors de l'Europe et les États-Unis. Y inclut évidemment l'alliance avec la Chine, parce que pour le Zimbabwe, tel qu'il est maintenant, il n'y aura pas un avenir. C'est un pays complètement cassé.
Scott Bob, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Un pays complètement cassé? Êtes-vous optimiste pour l'avenir?
Pas complètement cassé à mon avis, mais quand même avec beaucoup de problèmes. Et je suis plus ou moins d'accord que si M. Mnangagwa parvient à améliorer l'économie, à créer de l'emploi. Beaucoup de Zimbabwéens qui n'aiment pas le conflit le soutiendront. S'il ne parvient pas, la lune de miel sera assez courte, à mon avis.
Alors, je reviens vers vous, Monsieur Zamba. On parlait tout à l'heure de la Chine, avec cette alliance qu'on a pu observer à partir de 2004. Est-ce que vous pensez qu'elle va se poursuivre avec le nouveau gouvernement ?
Absolument. Nous avons déjà le ministre des Affaires étrangères de Chine qui a dit que même si Monsieur Mugabe est parti, que la Chine ne changera pas sa politique au niveau du Zimbabwe. Et je pense que pas mal d'autres pays vont également emboîter le pas, les nations européennes comme nord-américaines, et notamment également, on voit bien comment, à quel niveau l'Afrique du Sud est impliquée dans ce qui s'est passé dans la résolution. Et je pense que ce sont des atouts positifs, que ces personnes gardent la main ou le regard sur ce qui va se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochaines années au Zimbabwe.
Monsieur Cohen, qu'est-ce que vous en pensez, vous également ?
Je crois que la première étape, après avoir fait un gouvernement de unité nationale qui est absolument essentiel, il faut appeler tout de suite le Fonds monétaire international, parce que c'est l'institution qui peut mettre en route une vraie réforme de l'économie. Sans les institutions comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire, ce sera très difficile. Et même la Chine ne peut rien faire pour les aider sans ces institutions.
Alors, Scott Bob, est-ce que vous pensez que les États-Unis vont prendre un nouveau rapport avec ce nouveau gouvernement ?
Je crois que les États-Unis, comme beaucoup de gouvernements occidentaux, soutiendront et appuieront ceci et sont bien volontiers pour aider le Zimbabwe dans l'aspect économique. Mais assez vite, on verra des pressions sur le régime pour ouvrir politiquement le système et laisser un peu plus de tolérance dans ce système, ce qui, pour moi, sera le plus difficile pour ces anciens barons.
Monsieur Zamba, est-ce que vous pensez que les autres pays d'Afrique centrale ont une réaction face à cette démission ? Car on a pu le voir dans les réactions Facebook. Est-ce que vous pensez que ça va donner un écho à travers les autres pays africains ?
Je l'espère. Et je pense que pas mal de dictateurs, de personnes au pouvoir de façon malencontreuse prennent acte. Et c'est la dernière fois que nous avions mentionné la bravure de l'armée zimbabwéenne. Pendant un moment assez critique, ils ont intervenu. Nous rappelons en 86 aux États-Unis avec le président Reagan, quand il y avait des soupçons qu'il pouvait avoir la maladie de Alzheimer, il y a une investigation qui était mise en place pour essayer de s'assurer que le président était en mesure de continuer à diriger ce grand pays. Et donc, pour nous, c'est important ce qui s'est passé au Zimbabwe. Et nous appelons au leadership de pas mal de personnes qui ont cette capacité de faire la même chose dans des pays où il y a de la dictature.
Professeur Thomas Chaussen, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il pourrait y avoir un écho, un élan de démocratie dans d'autres pays africains ?
Oui, peut-être, même un effet domino. C'est pas un secret que le président Zuma en Afrique du Sud, au commencement, a tout fait pour maintenir Mugabe au pouvoir. Et que c'était l'Angola qui a déjà fait sa transformation, qui ont déjà un successeur au grand président fondateur, pas fondateur, mais président presque pourvu, Dos Santos, c'est M. Lourenço, qui était une personne clé dans l'appui de Mnangagwa. En Afrique du Sud, une partie très importante du parti ANC, la fin de semaine dernière, a fait une conférence consultative qui a adopté une résolution qui demande la démission immédiate de Jacob Zuma.
À vos souhaits. Scott Baum, vous laissez également réagir sur cette partie-là. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un élan de démocratie, car c'est ce qu'on a beaucoup pu voir sur la toile, à travers toute l'Afrique et à travers cette démission ?
Apparemment, il y aura une tentative de cet effort et on verra si vraiment ça aboutit à quelque chose. Bien avant, il y a eu un gouvernement de transition, l'unité nationale, qui a chuté. Alors, vraiment, c'est à voir. Mais au moins, ce changement a donné un souffle d'espoir au peuple zimbabwéen et on espère que les leaders se mettront à la tâche de l'accomplir.
Merci beaucoup. Ça sera donc le mot de la fin. C'est la fin de cette émission. Merci à tous nos invités et à vous pour votre fidélité. Un clin d'œil à toute l'équipe technique ainsi qu'à Canal 3 qui diffuse Washington Forum au Bénin. Excellente soirée à vous. We'll be right back.
En plus de nos programmes sur FM en cours, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet.
Jemina, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants.